Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Ruffini. En mars 2016, le tableau d'une Vénus attribuée à Luca Cranach, grand peintre de la Renaissance, est saisi à Aix-en-Provence. Acquise par le prince de Liechtenstein pour 7 millions d'euros, cette peinture proviendrait de la collection d'un franco-italien, Giuliano Ruffini, soupçonné d'avoir plusieurs ventes de faux tableaux à son actif. Certains auraient même été exposés dans les plus grands musées du monde. Pour l'instant, impossible de qualifier ce collectionneur de faussaire. Il n'a jamais authentifié lui-même ses tableaux et se cache derrière les expériences de conservateurs et d'historiens qui, eux, ont certifié ses toiles sur lesquelles il affirme être tombé par hasard. Cette affaire, toujours en cours, est une plongée dans les méandres des grandes galeries, des maisons de vente prestigieuses et des labos d'experts aussi cachés que des bunkers avec en prime la lettre d'un corbeau. Du Louvre à Seattle, en passant par Bruxelles et la région italienne de l'Émilie-Romagne, retracer le parcours d'une œuvre vendue par Ruffini, c'est déceler la fragilité et les limites du marché de l'art. Comment attester, par exemple, qu'une peinture est une vraie? Peut-on faire confiance aux experts? Et surtout, un excellent copiste n'est-il pas un génie, lui aussi? Éternel problème. Notre invité aujourd'hui, Vincent Noce, journaliste et consultant pour la Gazette de Rouen, auteur du livre « L'affaire Ruffini, enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art », publié cette année chez Buchet-Chastel. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Novembre 2015. Dans l'ambiance feutrée de l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, on vient de l'installer dans son écrin de velours rouge, cette Vénus au voile, nue, avec pour seuls apparats un collier, une longue chevelure, et cette étole faussement pudique, translucide même, qui accentue plus qu'elle ne dissimule sa tenue d'Ève. Une nymphe, peinte par le génie allemand de la Renaissance, Luca Cranach l'Ancien. L'œuvre, effectivement, ne date pas d'hier. Elle remonte à l'an 1531. C'est dans cet ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, réhabilité en galerie d'art, que les princes du Liechtenstein ont choisi d'exposer une partie de leur collection de peintures. Depuis 4 siècles, la plus riche des familles royales d'Europe accumule les pièces d'exception et détient environ 1700 œuvres. Parmi les 40 peintures prêtées à la France, la Vénus du peintre Cranach est présentée comme la pièce maîtresse de cette exposition prestigieuse. Cette huile sur bois de 38,7 cm sur 24,5 est estampillée du monogramme au serpent ailé, signature du peintre allemand. Un tel chef-d'œuvre ne peut donc figurer qu'en couverture du catalogue de cet événement temporaire. Pour le lancement de l'expo, le prince Philippe du Liechtenstein s'y attarde longuement et l'a décrit devant les caméras de France 3.
Ça, c'est un tableau qui a été racheté il n'y a pas si longtemps. Holbein, qui est sublime, surtout parce qu'il est dans d'une qualité et d'une fraîcheur extraordinaire. Donc, fait plaisir de voir une chose pareille.
Avec son regard insolent, la Vénus dénudée de Cranach est l'une des toutes dernières acquisitions des princes du Liechtenstein. Tout comme ce tableau de Massy, les collecteurs d'impôts, typiques des scènes de genre réalisées au XVIe siècle.
Mais le 1er mars 2016, en début d'après-midi, une poignée d'étranges visiteurs, genre pas gênés, passent la grille du jardin de l'hôtel Caumont. Et pas pour admirer la divine Vénus au voile de Cranach. Enfin, peut-être. Mais surtout pour s'en saisir, légalement. Et ce, devant les amateurs d'art venus voir la petite mais divine huile sur bois. La juge d'instruction parisienne, Aude Burezi, et ses enquêteurs embarquent l'œuvre, direction la capitale, au nez et à la barbe des employés du centre culturel, qui assistent au tableau, si je puis dire, bouche bée. Les hommes qui l'accompagnent travaillent pour l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, l'OCBC, service de la police judiciaire, chargé de la lutte contre la contrefaçon dans le monde des arts. Alors, ça veut dire que cette Vénus de Cranach serait un faux? en décrochant aussi un tableau en pleine journée, plutôt qu'à la fermeture de l'exposition, et sans discours préalable, ni discussion, l'accident diplomatique entre la France et la principauté richissime n'est pas loin. D'ailleurs, les avocats des princes insistent pour récupérer la Vénus. Car deux experts reconnus spécialistes du peintre allemand ont bien authentifié le tableau comme un Cranach, un vrai. Mais ce que la famille princière ne sait pas, c'est que depuis plusieurs mois, la juge Aude Burezi et les enquêteurs de l'OCBC travaillent sur une vaste affaire de faussaires. Tout commence en 2014. L'OCBC reçoit une lettre anonyme. Impossible d'identifier le corbeau. Mais la piste est prise suffisamment au sérieux pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte avec une information judiciaire dans la foulée en 2015.
Depuis quelque temps, un nom revient souvent dans le milieu de l'art à propos des gens dont il faut se méfier car liés à une activité de faussaire. Et celui de Giuliano Ruffini est très souvent cité avec des exemples de problèmes qu'il a eus tant avec des marchands qu'avec des salles de vente internationales.
41 millions d'euros, est-ce que je vois 42 ? 41 millions d'euros, est-ce que j'ai 42 millions d'euros quelque part ?
Mais comme à chaque fois il a remboursé, les choses se sont arrêtées là. Il sévit depuis une bonne vingtaine d'années en France, à Londres et en Italie. Avec le temps, la qualité des œuvres qu'il propose a augmenté. Et surtout, il est passé à la vitesse supérieure en proposant des tableaux de grands maîtres et de grandes valeurs. Le dernier en date étant une Vénus au voile de Luca Cranach, revendue 7 millions au prince de Liechtenstein pour son musée de Vaduz par Konrad Herheimer de Munich. Or, des études poussées sur ce tableau, qui sort de nulle part, menées par Christie's Londres, ont démontré que l'attribution est sujette à caution. Une radiographie devrait suffire pour établir la vérité.
Alors, un lien entre la Vénus et ce trafic de faux tableaux ? Un nom surtout. Giuliano Ruffini, marchand d'art et collectionneur franco-italien qui a introduit depuis 30 ans sur le marché des dizaines de tableaux de maîtres. Et pour comprendre comment ce fils de cordonnier a fait fortune, regardons comme souvent dans le rétroviseur. Giuliano naît près de Parme en 1945. La famille Ruffini fuit le claquement des bottes fascistes et s'installe porte de Clignancourt à Paris. Dès l'adolescence, le petit Giuliano veut devenir un grand artiste et cela joue playboy romantique. Il sait s'entourer et jouer de ses charmes pour se faire du réseau et amasser un petit pécule.
C'est la rue de l'Odélir, où l'amour a su fleurir, tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la rue des cœurs fidèles, nous aimons la rue de notre amour.
Première cible, alors qu'il n'a pas 20 ans, Damien, gloire de la chanson parisienne des années 50 qui roulèrent comme personne. 5 décennies la séparent de ce gamin italien Ruffini qui peint au couteau et parvient à la séduire. La blonde peroxydée à la permanente impeccable l'aide à exposer ses œuvres, portraits, paysages ou natures mortes dans une galerie et pour la première fois à la fin des années 60. Finalement, le séducteur en herbe plaque tout pour mener une vie de bohème entre la France et le Brésil. Dans la rue, il enchaîne les petits boulots par-ci par-là et commence à travailler dans la capitale pour Drouot en 1973. Il se lance, hésitant, dans l'achat et la vente d'objets d'art. Mais c'est en croisant le chemin d'une autre femme, plus âgée elle aussi, qu'il va devenir un marchand de renom ou l'un des plus grands faussaires présumés de l'histoire. C'est au choix. Il rencontre André Bory, 30 ans de plus que lui. Très amoureuse de cet Italien baroudeur, cette riche héritière de la collection d'art de son père ouvre avec lui de petites galeries près de la place des Vosges à Paris. Le couple s'offre également une propriété de 60 hectares avec un corps de ferme près de Castelnuovo nei Monti, en Émilie-Romagne, au nord de l'Italie. Mais André Bory meurt en 1980 d'un infarctus. Sans enfant, Ruffini hérite de la propriété, de la fortune de sa conjointe décédée et surtout des tableaux anciens accrochés autrefois au premier étage de l'hôtel particulier de son père à Paris. Une collection qui s'avérera aussi abondante qu'inépuisable. Rapidement, Giuliano refait sa vie. Il se lie avec une franco-italienne avec qui il a un fils, Mathieu. L'ex-artiste de pacotille se met à vendre des flamants comme des petits pains. Entre ses mains passent des pépites, des copies officielles ou de vrais Bruegel ou autres Peter le Jeune et Antoine van Dyck, rien que ça. Quand l'affaire Ruffini éclate, Vincent Noss, le journaliste qui a révélé le scandale et qui est notre invité aujourd'hui, le rencontre dans son Émilie-Romagne. Dans son livre publié cette année, intitulé « Enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art », il décrit ce septuagénaire aux cheveux poivre et sel.
En surplomb des bâtiments de ferme, il a édifié une demeure luxueuse, ceinte d'une colonnade à la californienne. Aux grandes baies vitrées, spacieuses et ouvertes sur la nature, dotées d'un système de sécurité avec circuit de caméras. Il a fait construire une route dans la montagne et s'est acheté un chasse-neige pour les hivers rigoureux. Il a installé un spa décoré de vitraux rétro-éclairés. Dans un coin du grand salon, un chevalet ancien signe l'inclination du propriétaire pour les beaux-arts. Dans sa bibliothèque, quelques catalogues d'art voisinent avec de vieux traités de peinture. En une quarantaine d'années, passées à négocier des tableaux, Giuliano Ruffini n'a pas manqué d'acquérir un certain savoir, plus technique qu'historique. Il se moque du vocabulaire raffiné des historiens de l'art et des préciosités des experts qu'il tient pour des ignorants pédants. Il préfère, quant à lui, cultiver l'expression vivante d'un homme du peuple. Il écrit de la même manière, sans se laisser désemparer par les fautes d'orthographe et de grammaire, s'emportant parfois avec une naïveté assez déconcertante.
Concernant notre Vénus au voile, si le commissaire de la collection du prince de Liechtenstein atteste qu'il s'agit bien d'une toile attribuée au Cranach, son origine reste floue. Et c'est là que le journaliste Vincent Noss réussit à établir un lien entre le tableau et Ruffini. Première curiosité, comment expliquer qu'un tel chef-d'œuvre ait pu sortir des radars des grands musées et conservateurs pendant des siècles ? Lors de l'expo en 2015 à Aix-en-Provence, la notice de la Vénus indique « Provenance collection privée belge à partir du milieu du 19e siècle, acquis en 2013 par le prince Hans Adam auprès de Colnaghi, Londres ». C'est le collectionneur allemand Konrad Bernheimer, un monstre du marché de l'art, qui a vendu pour 7 millions d'euros le tableau au Liechtenstein. Et il ne sait rien concernant la grande famille belge qui l'aurait détenu sur plusieurs générations. En creusant, Vincent Noss découvre que cette collection privée belge est une invention qui a permis au chef-d'œuvre de passer par Bruxelles, où la législation sur le commerce de l'art est la plus laxiste du continent européen. En France, difficile de ne pas attirer le regard des experts du Louvre avec une signature du Cranach. Et dans ce cas, la petite mais divine Vénus aurait été interceptée. Continuons à remonter la piste. Konrad Bernheimer a lui-même acheté le tableau le 21 mars 2013 pour 3 200 000 euros, donc quelques mois seulement avant de le vendre à la collection des princes. Son vendeur, Michael Torchmann, un jeune financier allemand, inconnu au bataillon de ce business si codé, lui-même tenait la Vénus de la société dont il était président Skyline Capital, basée aux États-Unis. Torchmann, avant-dernier maillon de la chaîne, avant le Liechtenstein, a pu décrocher un certificat d'authenticité. Ce requin du monde de la finance a fait appel à deux spécialistes de Cranach, dont Werner Chardet, une référence, 76 ans au moment des faits. Dans son livre, Vincent Noss l'interroge sur l'expertise qu'il a menée sur la Vénus. Et voici sa réponse.
J'ai vu le panneau à Londres, qui m'a été montré par le fils de la famille bruxelloise, laquelle en était propriétaire depuis fort longtemps. Je l'ai examiné plusieurs heures. Il y avait là une restauratrice qui fut d'une grande aide, car elle pouvait répondre à beaucoup de questions sur son état. Il ne m'a même pas effleuré que la composition aurait pu dater d'une autre époque. J'ai surtout cherché à comprendre si l'exécution pouvait être attribuée à l'artiste ou à son entourage. Pour moi, il était évident qu'elle était tellement belle qu'elle ne pouvait provenir du fils Cranach. Elle ne pouvait qu'être de la main de Lucas l'Ancien.
Skyline Capital, la société que préside Holzman, avait acheté le tableau à une autre société basée dans le Delaware, Art Factory, qui appartient à un courtier en art français qui habite en Italie, Jean-Charles Métias. Vous suivez, j'espère. Ce Jean-Charles Métias tenait la Vénus d'un Italien de Parme avec qui il avait déjà conclu quelques ventes juteuses. Un certain Giuliano Ruffini. Voilà notre homme qui a mis sur le marché en 2012 cette Vénus au voile pour la somme de 510 000 euros. Métias devient propriétaire du tableau fin 2012 pour 700 000 euros. Et là, la notice change. Il ne s'agit plus d'un Cranach pour sûr, mais d'une œuvre attribuée à Cranach. Dans le jargon, cela signifie tout bonnement qu'il n'y a aucune certitude. Ce que les spécialistes ne savent pas, en l'occurrence, c'est que Vincent Noz découvre, lui. C'est que Christie's, mastodonte britannique de la vente aux enchères, n'a pas voulu de cette Vénus. Car c'est à Christie's que Métias, le premier intermédiaire de la vente après Ruffini, fait une offre. Pour vérifier l'authenticité du tableau, la maison de vente fait appel à une experte et son bilan est sans appel. Elle relève en effet 11 problèmes, rien que ça, sur cette œuvre au petit format. Elle retrouve de larges particules blanches composées de sulfure de plomb et, plus inquiétant encore, des sels dans les perles du collier de la Vénus, du blanc de titane, un pigment créé en 1920, soit 4 siècles après la confection du tableau. Christie's annule la vente après une proposition à 10 millions d'euros. Ce qu'il faut comprendre en remontant les balles des acheteurs de la Vénus, c'est qu'en un semestre, le tableau a changé 5 fois de propriétaire. Ruffini d'abord, Métias, Skyline Capital, Torgman, puis Bernheimer et le Liechtenstein. L'œuvre est passée d'un demi-million à 7 millions d'euros et dans les méandres de ses ventes, la mention attribuée a disparu alors que, soumise à plusieurs expertises, son authenticité avait été remise en cause. Revenons en mars 2016 et au parcours de notre Vénus au voile après la saisie dans cet hôtel particulier d'Aix-en-Provence. L'huile sur bois est confiée à l'expertise du laboratoire de recherche des musées de France, un bunker de 3 étages en sous-sol, centré autour d'un puits de lumière situé sous la pyramide du Louvre. Là s'y agitent 150 blouses blanches, physiciens, restaurateurs, chimistes, géologues ou radiologues. Un laboratoire de pointe qui cache le seul accélérateur à particules pour les objets d'art au monde, la grande fierté de ceux qui y travaillent. Pour France Culture, Isabelle Palot-Frossard, sa directrice, vante la précision de ce centre de recherche unique en avril dernier au micro de France Culture.
Les œuvres que nous étudions commencent toujours par faire l'objet d'une série de photographies scientifiques. Mais sur certains objets, on peut avoir des successions de couches. Donc on va faire un petit prélèvement avec un scalpel qu'on va inclure dans une résine. Et ensuite, on va passer à des outils comme le microscope électronique à balayage qui va permettre d'analyser chacune de ces couches. On étudie tous les types d'œuvres, c'est-à-dire de la peinture, de la sculpture, des objets archéologiques, du mobilier, des arts graphiques et même de l'art contemporain.
Concernant la Vénus, les experts français confirment les recherches de leurs homologues anglais. Après 200 heures de travail, le couperet tombe le 13 juillet 2016. La matière même du panneau de bois est contestée, car Cranach n'utilisait pas le chêne. Une spécialiste du CNRS appelée en renfort atteste que ce même bois était chauffé. Les couleurs utilisées datent bien du XVIe siècle, mais leur qualité est contestée. Le laboratoire du Louvre s'interroge lui aussi sur la présence en grande quantité de chlorure de plomb. Il détecte également des craquelures trop marquées, témoignant d'un vieillissement artificiel. En comparant ce tableau avec 2 autres pièces du maître allemand, les laborantins démontrent que le travail sur les cils du personnage, leur tracé, pas assez précis pour un Cranach. En En parallèle, la juge Aude Burezi poursuit son enquête et fait appel à des experts de l'université de Cologne qui, quelques mois après la saisie, attestent eux aussi d'un vieillissement artificiel de la peinture. Expertise allemande ou parisienne, la conclusion reste la même. L'œuvre est un pastiche exécuté à la manière de Cranach, l'ancien, réalisé avec des matériaux de l'époque et vieilli artificiellement.
Sensible sur France Inter.
Fin mai 2016, pendant que la Vénus est passée au crible, les Alfa Romeo grises de la police financière italienne pénètrent dans les 60 hectares du domaine de Giuliano Ruffini. Les hommes de la Guardia di Finanza s'apprête à fouiller cette propriété qui surplombe les collines et le plateau rocheux du Bismantova. Le corps de ferme rustique acheté avec Damien a bien changé en 30 ans. Désormais, c'est une villa luxueuse avec une piscine olympique à débordement. Objectif de la perquisition, débusquer éventuellement un laboratoire destiné à la réalisation de fausses œuvres d'art. La police veut vérifier que le corbeau dit vrai et si les peintures en question proviennent d'un atelier de fabrication. La juge s'empare de documents, de tableaux, de matériaux chimiques, de manuels de restauration d'œuvres d'art et saisit également, je cite au rapport, un four industriel caché à l'intérieur de la buanderie dans un espace dissimulé, protégé par une porte blindée, à son tour caché par une armoire glissante à roulettes. Ce four à pizza pourrait servir à vieillir artificiellement des peintures récentes pour les patiner, leur donner une allure ancienne. De fausses peintures de maître dans un four à pizza, peut-on faire plus italien ? 3 semaines après la perquisition, la défense de Ruffini réussit à obtenir la restitution de ses biens. Le tribunal de Reggio Emilia constate l'absence de preuves et retire les charges de contrefaçon. Mais Ruffini reste accusé de fraude fiscale. Celui qui se dit agriculteur à la retraite ne déclare que 6 000 euros de revenus par an, une fortune minime, alors qu'il vient entre autres de faire don de plus de 2 millions d'euros à son fils. Et puis, cette villa luxueuse, Ça fait beaucoup. Concernant la perquisition et cette fameuse histoire de four, Ruffini s'expliquait auprès de Paris Match en mars dernier, clamant qu'il n'a rien à cacher. C'est un pizzaïolo du dimanche, voilà tout.
Oui, j'ai fait installer un blindage pour protéger mes tableaux, sinon tout le monde pouvait les voler. Et le four, c'est moi qui le leur ai montré, ils ne l'avaient pas vu. Je leur ai aussi montré la grosse machine qui sert à fabriquer la pâte à pizza. Car ce four servait à cuire des pizzas, pas des tableaux. Et s'il était dans cette pièce, c'est parce que je n'avais pas de place ailleurs.
3 ans plus tard, un autre tableau fait scandale. Nous sommes le 1er avril 2019 devant la Cour royale de justice du Royaume-Uni qui abrite notamment le tribunal de commerce de Londres. Dans la salle d'audience, le petit portrait de 34 cm sur 26 est absent, mais il est dans toutes les têtes des personnes présentes dans cette salle pleine à craquer. Nous parlons là d'une œuvre signée Frans Hals, l'un des maîtres du siècle d'or hollandais. Mais ce chef-d'œuvre du début du XVIIe siècle serait un pastiche émanant encore de la collection extraordinaire du marchand Giuliano Ruffini. En 2008, c'est lui-même qui présente ce portrait à Blaise Ducrocot, alors responsable de la peinture hollandaise au Louvre. Si le marchand franco-italien continue aujourd'hui à insister sur le fait qu'il a toujours douté de son auteur, le spécialiste du Louvre y reconnaît une œuvre du maître de Harlem, Frans Hals. Le tableau est d'ailleurs classé trésor national. Par l'intermédiaire de la fameuse maison de vente britannique Christie's, en octobre 2008, le Louvre se dit prêt à l'acheter pour 5 millions d'euros. Ruffini jubile, mais précise dans un mot adressé à Christie's qu'il n'est en aucun cas responsable de l'attribution et de l'authenticité de l'œuvre, ces deux points n'étant pas de sa compétence, mais de celle des experts. La suite semble écrite, mais l'amour d'un Hals se rend aveugle. Comme l'atteste le 4 novembre 2010, cette présentation au public de l'œuvre par Blaise Ducrocot, spécialiste des maîtres hollandais au Louvre, retranscrite dans le livre de Vincent Doss.
Un jour d'automne 2008, au siège d'une maison de vente installée à Paris, les experts qui m'accueillaient ce matin-là me désignèrent, dans un lot d'œuvres destinées au marché nord-américain, un petit tableau, exactement de 34,4 x 26,7 cm. De cette rencontre avec cette composition dans la grande tradition des ateliers des Provinces Unies, naît une épiphanie. Moment très particulier si l'on veut bien y réfléchir. Que de chemin parcouru depuis. Le tableau a été vu, commenté par les spécialistes de l'artiste. Il a fait l'objet d'une étude technico-scientifique au Centre de recherche des musées de France. Le bilan est clair. Nous avons affaire à une découverte. C'est un inédit du XVIe siècle hollandais, un vrai Frans Hals. Une de ces œuvres qui réapparaissent soudain après avoir échappé à des générations d'historiens de l'art. Le tableau a été authentifié, il a été admiré, il est aujourd'hui convoité.
Côté Christie's, on entreprend quelques expertises sur ce portrait de gentilhomme de Hals, et comme pour la Vénus de Cranach, on s'interroge. Comment est-il possible qu'un tel tableau n'ait jamais été répertorié ? Si les expertises ne nient pas qu'il puisse agir d'un Hals, en proie au doute en 2009, Christie's se retire du marché. Le Louvre, n'arrivant pas à réunir les 5 millions d'euros prévus, ne peut en faire l'acquisition. C'est le galériste britannique Mark Weiss, géant londonien du milieu de l'art, qui jette son dévolu sur ce tableau après qu'il lui fut montré par un proche de Ruffini. En 2011, il est approché par Sainsbury, une multinationale américaine de vente d'objets d'art, qui achète le portrait pour 11 millions de dollars. Son acquéreur, un richissime promoteur immobilier et collectionneur américain de la côte ouest, Richard Edrin. Mais 5 ans après cette transaction, alors que la Vénus au voile vient d'être saisie et qu'une enquête concernant une vingtaine de tableaux passés entre les mains de Ruffini est en cours, Sotheby n'a pas d'autre choix que d'appeler Hadrian pour le prévenir. Le Hals, acheté 11 milliards de dollars, pourrait être un faux. Une expertise plus tard, le couperet tombe. 2 analyses décèlent de la phtalocyanine bleue, un pigment introduit sur le marché en 1938. Le tableau fait son retour à Sotheby, qui rembourse Hadrian et décide de poursuivre le galériste britannique Mark Weiss. Lui refuse d'indemniser la maison de vente américaine. Weiss n'en démord pas, son hall, c'est un vrai. Nous voici donc de retour, le 1er avril 2019, au tribunal de commerce de Londres. Après 2 semaines d'audience et 9 mois pour rendre son jugement, le juge Robin Knowles publie son arrêt le 11 décembre 2019.
Certains considèrent ce portrait comme une œuvre de Franz Hals. D'autres non. Dans tous les cas, il s'impose comme une très belle peinture. L'expert, Jamie Martin, a trouvé dans les couches profondes de la peinture des particules correspondant, selon les tests, à la phtalocyanine bleue, un pigment bien postérieur à la mort de Franz Hals. Ce jugement ne détermine pas si la peinture est de Franz Hals, qu'elle soit de lui ou pas. Il faut espérer que ses qualités intrinsèques ne soient pas ignorées et qu'elle puisse être appréciée pour ce qu'elle est, une superbe peinture.
La juge donne raison à Sotheby. Mark Weiss se voit condamné à régler 5 millions et 375 000 dollars à la maison de vente. Depuis sa montagne italienne, Giuliano Ruffini l'atteste. Jamais il n'a prétendu que ce portrait pouvait être un Hals. Vous savez, je suis un collectionneur, moi pas un conservateur ou un expert. Ce sont eux qui ont voulu attribuer ces peintures à ces grands maîtres, se justifie-t-il auprès de Vincent Noce dans un article pour la Gazette Drouot. Vrai ou faux, faux vrai, vrai faux, parmi les autres ventes douteuses de Sotheby, les enquêteurs remontent aussi la trace d'un Saint-Jérôme présenté comme issu du cercle de Parmigianino, attribué au peintre italien du début du maniérisme. Exposé au Metropolitan Museum de New York, à Parme et à Vienne, il est authentifié par de nombreux spécialistes. Après la découverte d'un pigment synthétique vert récent à plus de 20 endroits du tableau, Sotheby décide de poursuivre le luxembourgeois qui lui a vendu. Celui-ci est condamné en novembre 2018 à rembourser 1 200 000 dollars. Cet imposant Saint-Jérôme, drapé dans un tissu rouge, provenait de la collection d'un certain Ruffini, encore. En multipliant les saisies, plus d'une demi-douzaine, et les analyses, l'enquête remonte vers celui que Ruffini présente comme son restaurateur et qui pourrait être aussi son copiste. Son ami et voisin, l'artiste Lino Ferrangia, qui aurait reçu 740 000 euros via un compte suisse en provenance de Mathieu Ruffini, fils de Giuliano Ruffini. Selon l'homme politique italien et ultra-médiatique Vittorio Scarbi, Ferrangia est le plus grand maître ancien vivant. Mais un seul et même copiste peut-il reproduire à la fois des maîtres italiens ou hollandais au style si particulier? Il s'agirait alors d'un des plus grands génies du siècle. À ceux qui soupçonnent Ruffini d'avoir abusé les acheteurs de ses toiles, il répond qu'il n'a jamais présenté ses tableaux comme des œuvres de maître, et que ce sont les sommités du milieu, les experts des grands musées européens, les grandes maisons de vente comme Sotheby qui les ont reconnus comme authentiques. C'est toujours le même système de défense, et apparemment il tient. Son avocat, maître Philippe Scarcella, s'en explique au micro de France Culture.
Sur les deux tableaux dont on parle, je pense que c'est important, M. Ruffini n'a jamais considéré qu'il avait affaire à des authentiques Lucas Cranach ou authentiques Hals. En tout cas, il s'est toujours bien gardé de donner lui des attributions parce que ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa responsabilité. Et c'est généralement les marchands ou les maisons de vente qui ont ces tableaux entre les mains et qui d'ailleurs prennent de substantielles commissions lorsqu'ils les vendent, qui, c'est la contrepartie de leur travail, se chargent d'attribuer, de faire expertiser ou analyser ces tableaux. Donc ça a été le cas de ces deux tableaux. Donc M. Ruffini, lui, pour le Cranach, considérait que c'était une école flamande de style Cranach parce qu'on reconnaissait bien le style de l'époque. Il n'a jamais pensé, effectivement, pendant longtemps, que ça pouvait être de la main de Lucas Cranach, l'ancien.
Alors, Giuliano Ruffini, faussaire ou collectionneur de génie? En mars 2019, la justice française délivre un mandat d'arrêt européen contre lui et son complice présumé, le peintre Lino Frangia. La justice italienne a refusé l'extradition de ce dernier, jugeant le dossier insuffisant. Aujourd'hui, près de 7 œuvres faussement attribuées, notamment au Parmigianino, au Greco, à Cranach, sont dans le viseur de la justice française. Reste à savoir si l'ombre de Giuliano Ruffini, ex-playboy devenu comme le titre Paris Match le virtuose qui se joue des experts, est à l'origine ou non de toutes ces arnaques.
Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séance, dans un habit, ma foi, saillant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison, où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons d'eux, la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids, faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne devant pas le rivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles, en levant ses fausses dentelles, elle a dit, mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur, ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas, en l'occurrence Cupidon se conduisit en faux jeton. En véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins, ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur.
Georges Brassens sur France Inter, le faussaire, absolument parfaite cette chanson, qui vient en complément de ce que nous avons à dire, Vincent Noce. Bonjour.
Bonjour.
Donc journaliste et écrivain, vous avez pendant 20 ans travaillé en tant que journaliste au service culture de Libération, et vous écrivez désormais pour The Art Newspaper en 2021, donc cette année. Vous publiez chez Buchet-Chastel l'affaire Ruffini, fruit de 5 ans d'enquête. Alors, le titre dit « Le plus grand mystère du monde de l'art ». Vraiment ?
Quand j'ai commencé à enquêter, je m'attendais pas à trouver sur mon chemin le Louvre que vous avez mentionné, mais aussi la National Gallery, le Metropolitan Museum de New York,
grands, quoi.
Des grandes galeries de Londres, Sotheby's, qui est l'une des deux plus grandes maisons de vente mondiales, et une flopée d'experts, effectivement, de toute nationalité, un peu partout dans le monde. Donc, c'est quand même très rare de trouver un scandale qui éclabousse autant de monde dans ce monde de l'art, oui.
Alors, oui, c'est à grande échelle, hein, une affaire à grande échelle. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, hein, c'est son système de défense. Il dit, moi, je ne peux, écoutez, je suis pas un expert, je peux pas savoir si, avec certitude, c'est un tableau est authentique ou faux. Ça tient quand même, non?
Ça a une certaine tenue. Bon, maintenant, le problème, d'abord, ça se heurte quand même à une certaine logique. Vous avez quelqu'un là qui prétend, qui a vendu pendant une quarantaine d'années, peut-être des centaines de tableaux. Il a devant lui un tableau qui est signé de Frans Hals, un tableau qui est signé de Cranach, et d'autres aussi qui portent une signature, et il s'en aperçoit pas.
Mais bon, oui, c'est un peu gros aussi.
Il les vend en disant, moi, je sais pas ce que c'est, ça pourrait être n'importe quoi. Bon. Donc, il y a un côté roublard là-dedans, ce qui est, une roublardise qui est assez évidente. Bon, d'autre part, si effectivement, la procédure confirme que ce sont des faux, ils ont été faits avec des matériaux recréés comme à l'époque.
Oui, artificiellement.
Artificiellement, ou ce qu'on peut encore trouver parfois. Hein. Ouais. Et avec des vieux panneaux de bois, enfin des choses comme ça. Et donc, c'est ce que dit le résultat de l'expertise judiciaire sur la Vénus de Cranach. Ils ont été faits pour tromper. Hein, c'est pas simplement des copies qui sont tombées par hasard dans son escarcelle, qu'il n'a pas très bien compris, tout ça, ça tient pas la route. Donc, il y a une tromperie.
Une volonté de recréer quelque chose.
De recréer pour que ça passe des tests élémentaires de laboratoire. Et c'est ce qui se passe pendant longtemps. C'est que, bon, bah, dans les tests de laboratoire, on dit oui, bah, les pigments sont compatibles avec la période de ces grands maîtres. Oui, mais d'abord, ça prouve pas que ce soit de leurs mains. Mais, et en même temps, ça donne une illusion de sécurité aux amateurs, aux acheteurs qui tombent dans le panneau.
Bien sûr. Alors, la justice italienne, dans cette affaire-là, elle coopère pas trop, hein? Dites-moi.
Non. Alors, c'est même l'un des éléments les plus scandaleux dans cette histoire. C'est que normalement, il existe une procédure qui s'appelle le mandat d'arrêt européen,
oui,
qui veut que dans tous les pays européens, on puisse arrêter quelqu'un et le transférer dans le pays où il doit être jugé. Et normalement, cette procédure est automatique. Et dans les deux cas, les juges en ont décidé autrement. Dans le cas du peintre Lino Frangia, qui est suspecté d'avoir peint les plus belles œuvres de cette série, ils ont dit, mais dans la procédure française, ça va pas, ils disent une chose et son contraire, on n'est pas d'accord. Or, la cour de Bologne qui a pris cette décision ne pouvait pas faire ce constat. Elle devait juste dire si le mandat était valide ou pas valide.
Ah oui, c'est juste une question de procédure. On n'est pas sur le fond.
Question de procédure. Bon, par exemple, si le mandat risque d'amener quelqu'un dans des prisons où il y a de la torture ou de la peine de mort, on peut refuser parce qu'on considère que c'est pas valide.
Bien sûr.
Bon, mais c'est la seule chose qu'il pouvait faire. Or, le parquet n'a pas fait appel de cette décision, qui est donc devenue définitive. Et dans le cas de Ruffini, ils ont trouvé un autre biais. C'est comme il a une procédure fiscale sur le dos que vous avez mentionné, où on lui réclame apparemment quelque chose comme 12 millions d'euros en fonction de ses bénéfices.
Oui.
Vous voyez qu'il a bien fait de bonnes affaires, le petit agriculteur à la retraite. Eh bien, ils ont dit, ah ben, on attend les résultats de cette procédure, qui peut prendre des années et des années. Bon, lui, là, maintenant, c'est un septuagénaire, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, dans combien de temps il pourrait être transféré en France, et s'il y a une chance d'avoir un procès qui fasse éventuellement un peu la lumière sur ses activités.
Ah, vous l'avez rencontré, vous ?
Moi, je l'ai rencontré.
Parlez-moi un peu de l'homme. Quel homme vous avez vu ?
C'est quelqu'un de charmant. En tout cas, avec moi, il a été charmant. Il peut ne pas l'être, quelquefois, mais avec moi, il a été charmant. Je pense que ça fait partie du métier, je dirais. Disons, au moins du métier de vendeur de tableaux. Il a répondu à toutes mes questions par le même déni, par la même dénégation que vous avez cité tout à l'heure, en disant, ben moi, écoutez, moi, j'ai vendu tous ces tableaux, et c'est vrai que dans la, sauf exception, dans la plupart des actes, il met, moi, je ne garantis pas l'authenticité, je ne garantis pas l'expertise, c'est vous qui dites.
Oui, c'est ça, il revient toujours à ça.
Donc, voilà. Alors, évidemment, ça... Ça résiste pas à l'accusation de tromperie, mais c'est l'argument qu'il utilise pour se défendre. Bon, c'est évidemment c'est difficilement crédible parce que on a là quand même des dizaines de tableaux, par exemple, qui n'ont jamais d'historique, jamais de provenance. On ne sait jamais d'où ils viennent.
Le problème, c'est un sacré problème, quoi. Voilà.
Et parfois, il invente des historiques. Et ça, on le sait, parce que à moi, il me dit quelque chose. À un autre juge, il va dire autre chose sur le même tableau, la même histoire. Ouais. Il va raconter une autre histoire avec d'autres dates, d'autres personnages.
C'est de ce point de vue qu'il est toxique, en fait. Voilà, c'est de ce point de vue qu'il est vraiment toxique. Voilà. Par rapport à l'art. Hein.
Voilà. Et ça souligne la responsabilité des experts.
Bien sûr.
Et des conservateurs. Mmh. Parce que aucun ne se soucie du fait, par exemple, que ces tableaux, enfin, aucun. Certains l'ont fait, heureusement, mais beaucoup ne se soucient pas du fait que ces tableaux, on sait pas d'où ils viennent, et qu'on a ce personnage qui sort des chefs-d'œuvre les uns après les autres, comme ça, dont on n'a jamais entendu parler.
Que voulez-vous ? L'argent n'a pas d'odeur, hein, pour certains. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Palo et Pan, Les Jolies Choses.
Sanos, revenons maintenant sur le personnage de Lino Frangia, potentiel copiste et restaurateur de Ruffini.
Moi, je me dis, parce qu'on a présenté, on a travaillé sur quelques autres affaires de faussaires, ou faussaires présumés, moins spectaculaires que celle-là. Mais ce problème de ces faussaires, si, genre Lino Frangia, si c'en est un, ce sont d'incroyables artistes. Non ?
Alors, moi, je n'utiliserai pas le mot d'artiste. Ou même de génie, parce que les artistes, ils ont du talent et de la créativité.
Et oui, c'est... Oui.
Alors,
lui... Là, on est copiste, quoi, c'est différent.
Voilà, lui, il est accusé d'être un copiste. Alors, d'ailleurs, il revendique le fait d'être un copiste, ou un pasticheur, même de maître ancien, ce qui est une activité qu'il exerce par ailleurs, et qu'il a vendu des tableaux sous son nom, qui étaient des copies de David, par exemple.
Et assumé, copie assumée.
Copie assumée. Il a fait une fresque dans une église à la manière des maîtres anciens. Donc, il est... Il est très doué, il est certainement très doué, ce qui fait qu'on connaît, c'est très bien. À part ça, c'est un artiste contemporain raté, et qui n'a pas réussi à percer. C'est-à-dire, il a fait des œuvres à la manière de Quirico, un peu onirique, comme ça, qu'on peut voir sur Internet, d'ailleurs, qui sont assez décevantes. Et là, on rencontre quelque chose qui correspond, je ne sais pas s'il est faussaire avéré, lui, mais enfin, en tout cas, qui correspond au portrait du faussaire, c'est-à-dire un peintre raté, frustré, et qui veut se venger des experts en montrant qu'il peut les tromper en faisant mieux que les maîtres anciens.
Donc, association d'un faussaire et d'un vendeur. D'un vendeur de tableaux qui serait faux.
Voilà.
C'est ça, le montage.
Si la thèse de l'accusation, puisque, comme vous avez dit, ils ne sont pas encore jugés, est juste, on a un très bon vendeur et un maître d'œuvre, et d'autre part, un très bon copiste.
Alors, on va écouter l'archive. C'est très court. Il s'agit d'une intervention du directeur du Fine Art Expert Institute, Jan Wolver, qui donne en 2018, c'est pas vieux, un état des lieux du pourcentage de faux en circulation assez alarmant.
J'ai entendu de plusieurs sources informées entre Scotland Yard, Interpol, qu'ils estimaient qu'il y avait sur le marché de l'art, mais toutes catégories confondues, jusqu'à 50% de faux. Donc ce sont des chiffres assez importants qui nous étonnent pas tellement, puisqu'en fait dans notre pratique on a un pourcentage de faux bien plus élevé. On arrive, je pense, dans notre pratique à entre 70 et 90% de faux.
Bon, c'est préoccupant. Vous partagez cette statistique?
Non, moi je partage pas du tout.
Ah bon, c'est pessimiste, hein, quand même.
Ces chiffres qui sont alarmistes et qui ne correspondent à rien, qui ne sont pas construits sur une problématique sérieuse. Il peut y avoir des segments du marché de l'art, comme l'art déco, par exemple, où il y a eu effectivement énormément de faux. Et là, certains experts ont dit un peu à la louche, il y a presque la moitié des œuvres en circulation sont fausses. Maintenant, en général, le pourcentage de faux est quand même très très minoritaire et très marginal, heureusement. Aussi, bon, évidemment dans les musées, où il est pratiquement nul, pratiquement inexistant.
Heureusement,
il manquerait plus que ça. Et même sur le marché de l'art, il faut quand même le ramener à de plus justes proportions. Donc ça, c'est un peu des déclarations qu'on fait comme ça, à l'emporte-pièce, sans avoir vraiment fait un travail de statistique sérieux, je pense. Mais en tout cas, le phénomène est suffisamment alarmant. Et le problème aussi, c'est qu'il adultère l'œuvre des artistes. Parce qu'on pourrait se dire, bon, après tout, ces gens, ces riches collectionneurs, ils ont été trompés. Bon, c'est assez rigolo, c'est comme Robin des Bois. Il y a le personnage d'Arsène Lupin en arrière.
Oui, absolument.
De ces gens qui jouent sur l'art, qui sont... Bon. Et en réalité, ce qui est un peu dramatique, c'est que ces artistes qui ont tout donné dans leur vie, pour pouvoir léguer quelque chose à l'humanité, leur œuvre, elle est abîmée par des productions qui sont faites aujourd'hui, uniquement pour des raisons d'argent,
pas du tout,
des raisons artistiques, évidemment, et qui sont mal faites, évidemment, qui sont très mal faites par rapport à ce que eux ont voulu et ont recherché. Et donc c'est aussi un peu le legs de ces artistes que j'ai essayé de défendre en faisant cette enquête dans ce livre.
Donc l'affaire Ruffini, c'est une affaire en cours. On l'a dit là, qu'est-ce qui peut se passer maintenant tant que les Italiens bloquent? Ça bouge pas. Hein.
Écoutez, il y aurait toujours la possibilité d'un procès par contumace. Alors évidemment, éventuellement avec des seconds couteaux.
Ouais.
Mais alors évidemment, il y aura peu d'informations
qui puissent
en sortir. Ouais. C'est pas du tout satisfaisant. Il peut y avoir une bêtise qui est faite par l'un des protagonistes s'il sort d'Italie.
Ouais.
Où là, il peut être arrêté à une frontière, à un passage de contrôle de douane ou n'importe. Et sinon, effectivement, il y a un risque que l'affaire soit enterrée. Et ce serait vraiment catastrophique pour la coopération européenne aussi en matière de trafic d'art.
Eh bien, à suivre. Merci infiniment, en tout cas, Vincent Nos, pour tous vos éclairages. Merci, au revoir.
Merci à vous.
L'affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Ruffini, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.